With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est un petit peu ambigu comme sentiment. J'aurais voulu accompagner la grossesse de mon fils. Est-ce que j'aurais voulu, à ce moment-là, accompagner la grossesse de ma femme? J'en suis moins sûr. Je sais pas si tu vois le truc.
Ouais, ouais, ouais. T'as le recul de pourquoi t'as voulu faire cet enfant alors à l'époque?
Déjà, j'en voulais un.
Ok.
Ça, c'est clair. Et puis après, y a aussi le truc où tu te dis, ça va nous consolider. Ça va nous consolider.
Spoiler, ça ne marche pas.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Avec Nicolas. Salut Nicolas.
Salut Fabrice.
Ça va?
Très bien et toi?
Ouais, super. On vient parler de ton histoire de daron.
C'est ça, paternité.
Faut qu'on explique un petit peu comment on s'est rencontrés, je crois, avant, parce que c'est intéressant. On se connaît très peu, en fait, mais on se connaît un peu.
Ben, on se connaît dans des domaines dont j'irai la vérité de ce en quoi on s'est exprimé. Mmh. Mais effectivement, on s'est pas fréquenté socialement en dehors de ça. Donc, assez curieusement, on a commencé par la profondeur avant d'aborder la légèreté.
Exactement. On s'est retrouvé dans un cercle de mecs.
Ouais.
Qu'on rejoint une fois par mois avec des mecs de tout âge, j'allais dire, mais ça commence à peu près à 30-35 ans, je dirais.
Oui, oui, à peu près.
Jusqu'à 60, hein.
Oui, il y en a un qui est pas loin de la retraite, donc oui.
Et effectivement, tous les mois, on se retrouve et on discute pendant 2 heures d'un thème qu'on a choisi, quoi.
Et c'est bien court, 2 heures.
On pourrait faire beaucoup plus.
Largement.
T'as quel âge, Nicolas?
Eh ben, j'ai fêté il y a quelques mois mon demi-siècle.
Ah, t'as 50 ans donc.
Oui.
T'es papa, j'imagine?
Alors, je suis père et beau-père. Mm. Je cumule les deux fonctions, ouais.
T'es papa d'un grand garçon, c'est ça, si je me trompe pas?
C'est ça, je suis papa d'un grand garçon qui a 22 ans, qui est en 4e année d'école d'ingénieur. Ça marche super bien, c'est un gamin, enfin j'en suis très fier, puisqu'il est engagé dans la société avec des belles valeurs, il bouge, voilà, donc ça marche très très bien.
Ok. Ouais,
j'en suis très fier.
Et t'es beau-père de?
Je suis beau-père de 2 garçons également. Donc vraiment, moi, je suis axé sur les fils, hein, je connais pas les filles. 2 garçons de 9 et 13 ans,
okay.
Donc les enfants de ma compagne.
Donc le plus petit format, quoi.
Le plus petit format, et puis ça permet de réaborder, pour celui qui a 13 ans, les prémices de l'adolescence.
Ouais, ouais, t'es oui.
T'es reparti, quoi.
Ouais, ouais, on retourne au front.
Et on va en reparler, mais j'imagine que c'est pas du tout la même façon de le vivre à 50 ans comme t'as pu le vivre à 40 ans avec ton fils, quoi. Alors déjà, parce que c'est pas tes fils, c'est pas ton fils, donc il y a peut-être un lien qui est un peu différent.
Alors oui, il y a un lien qui est différent. Paradoxalement, quand mon fils à moi donc est né, j'avais 27 ans.
Ok.
Donc à 27 ans, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences qu'à 50. Et bah, on a encore entre 20 et 30 ans, on est à fond, la tête dans le guidon, on y va. Là, j'aborde ça avec, je vais oser un gros mot, avec de la sagesse.
T'as le droit.
Avec de la sagesse. Et c'est vraiment fabuleux parce que, ça, je pense que je pourrais le raconter après. En fait, c'est pas moi qui ai choisi les enfants, c'est eux qui m'ont choisi. C'est-à-dire que moi, je connaissais leur mère, on sortait ensemble. Et la façon dont je suis arrivé dans leur vie était pas du tout prévue comme ça.
Ok.
Si tu veux, je peux raconter maintenant.
Non, on racontera plus tard. On va faire de façon un peu chronologique, mais j'aime bien planter le décor au départ, comme ça.
Et du coup, c'est eux qui m'ont adopté, ce qui m'honore énormément, mais me responsabilise également parce que, effectivement, je ne suis pas leur père biologique. Mais ça me permet de comprendre et de vérifier que les liens du cœur peuvent être beaucoup plus forts que les liens du sang. Et donc de vivre cette paternité avec un pur amour, quoi, un pur amour dans la transmission, qu'elle soit d'eux vers moi ou de moi vers eux, parce que il n'y a pas l'obligation de me dire je dois m'en occuper.
Ouais.
Donc comme c'est libre, c'est pleinement assumé et c'est chouette.
Et t'avais la sensation que t'étais moins libre avec ton fils. Biologique pour le coup.
Ah oui, clairement, mais après bon, ça c'est l'histoire passée, c'est-à-dire que mon ex-femme a commencé à développer des problèmes d'ordre psychiatrique au moment de la naissance de mon fils. Et ça a été une longue descente aux enfers de ce côté-là avec une forme de déni de la paternité que j'incarnais. Alors, je suis pas psychiatre, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais disons que mon ex-femme n'avait pas vraiment connu son père, ne savait pas si c'était son vrai père, avait été élevée par sa mère avec deux sœurs, environnement donc très très féminin, et je pense que ce qui était un couple avec un homme, ce qui est un père, c'est une image qu'elle n'avait pas du tout, pas de représentation. Et du coup, finalement, mon fils est devenu son petit homme. Et ça a été assez compliqué à gérer, puisque il devait prendre ma place. Or, un enfant doit rester à sa place dans un couple équilibré. Et puis, quand il avait 3 ans, du coup, j'ai voulu partir. J'en ai eu marre. Enfin, ça devenait complètement insupportable. Hein. C'était même destructeur pour moi. Et j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et pendant la nuit, je suis resté avec une photo de mon fils en pleurant. On l'entend chanter sa petite comptine mon petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus dans son petit jardin. Je suis encore ému à ce souvenir là et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça. De par ma profession, il était quasiment impossible que j'en ai la garde.
Est-ce qu'on peut dire que t'es militaire?
Oui, je suis militaire. Transition professionnelle, mais pour les quelques mois qui viennent, je suis militaire.
C'est de là d'où tu viens, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je le précise parce que je sais pas à quel point ta formation militaire et tu vois l'état d'esprit militaire qu'il peut y avoir derrière, ça a eu un impact sur ta façon d'être papa. Je ne sais pas. On en parlera peut-être.
Oui, ça a eu un impact, évidemment, parce que quand on est militaire, surtout je suis rentré dans l'armée à 18 ans, donc très jeune, c'est s'engager pleinement au service de quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc, c'est-à-dire que l'individu compte par ce qu'il peut apporter aux autres. Donc oui, ça c'est forcément des valeurs que j'ai transmises.
Tu parlais de responsabilité là tout à l'heure, je sens qu'il y a un truc.
Énormément. Énormément. Et du coup, pour mon fils, ma responsabilité, comme je voyais bien, je sentais bien, sans mettre des mots, un diagnostic, qu'il y avait un déficit d'ordre psychologique ou psychiatrique chez sa mère, c'était pas possible de le laisser. Et donc, je me suis fait le serment de rester et de tenir jusqu'à ce qu'il parte faire des études. Et donc, on va dire que ces 15 ans, puisqu'il avait 3 ans et qu'il est parti faire des études à 18 ans, ces 15 ans, ça a été de la gestion de crise. Tous les jours.
Incroyable.
Donc, oui, mais on est capable de tout pour son enfant. On est capable de tout.
Tu es capable de tout. Mais c'est...
Je pense que... Alors...
C'est pas ça, c'est que j'aime bien que les gens parlent d'eux.
Ouais, d'accord.
Ils parlent
alors,
en jeu.
Je vais parler en jeu. Je ne suis pas un héros. Je pense que lorsqu'on va chercher au fond et que son enfant est en danger, je pense que n'importe quel père et n'importe quelle mère, bien évidemment, est capable d'aller dépasser des limites dont il n'avait pas conscience. Donc je pense que c'est possible. Et puis après, c'est comme la grenouille que tu mets dans de l'eau. Hein, voilà, si tu la mets dans l'eau froide et puis que tu montes la température, la grenouille va pas sauter de la casserole. Donc progressivement, ça devient une habitude de vie. Et finalement, on se pose même plus la question de est-ce qu'il peut exister autre chose. On gère. On gère au jour le jour. On gère la crise. Et ça devient une fin en soi.
Ok.
Ça devient une fin en soi.
Écoute, merci pour ce panel ou ce panorama de tout ce dont on va parler. Et, mais en fait, avant ça, moi, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, d'où te vient ton désir de paternité ?
D'où me vient mon désir de paternité ? Mon désir de paternité, bon, il est déjà dans une question, je dirais, un peu d'immortalité, c'est OK. Finalement, tout homme est un météore à l'échelle de l'univers, hein, c'est-à-dire on brille, mais c'est très très fugace. Qu'est-ce que je vais laisser derrière ? Qu'est-ce que je vais laisser derrière ? Alors, mes gènes, ouais. Certes, mais surtout un être qui pourra prendre ou pas. Ça sera son choix, mais en tout cas, je lui proposerai ce que moi, j'aurais appris de la vie, les expériences que j'aurais acquises, les échecs que j'aurais rencontrés, les coups que j'aurais pris, les joies que j'aurais eues. Et ça perdurera comme un enseignement, comme une expérience qu'il pourra lui aussi enrichir de ses propres expériences, de ses propres valeurs, de ses échecs, de ses coups dans la figure, de ses joies, et transmettre à son tour. Et finalement, c'est un peu comme ça que... Je dirais la sagesse pourrait se transmettre dans la durée, quoi.
Ok. Et donc, un aspect de transmission.
À moi, c'est fondamental pour moi, la transmission. C'est-à-dire que...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comme disait Bismarck, en fait, plutôt que d'apprendre par mon expérience, je préfère aussi profiter de celle des autres. Et ça permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Alors, à l'échelle d'un être humain, à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'une humanité, pourquoi pas ? Voyons large. Mais effectivement, la transmission, ça permet de fournir un bagage qui sera ouvert ou pas, qui sera utilisé ou pas. Mais de fournir un bagage qui permettra de mieux affronter, je dirais, les vies à venir. Quoi.
Ok. Mais ton envie de paternité, elle se... elle se cristallise comment, à quel âge, est-ce que c'est un truc que t'avais en toi depuis que t'étais tout petit, il y a vraiment toutes sortes de réponses.
Non,
est-ce que
non,
c'est
non,
venu
alors,
plus tard pour toi?
C'est 27 ans, c'est quand même tôt, hein, oui. Globalement, hein, 27 ans c'est quand même tôt, mais ça faisait quand même 9 ans que j'étais militaire, donc j'avais déjà vécu des trucs.
Ouais.
Et c'était la volonté d'avoir une famille, hein, initialement d'ailleurs j'en voulais deux, voire trois, des ouais. enfants. Bon, quand j'ai vu comment ça se passait pour le premier, je me suis dit, dans tous les cas, ça va mal finir, donc il n'y en a qu'un seul qui en souffrira.
T'étais parti là-dessus? Tu partais du principe que ça allait mal finir?
Oui, je l'ai très vite senti, quoi. Okay. Je l'ai très vite senti. Et du coup, bon, les autres ne sont pas venus. Si, ils sont venus par une voie détournée, on y reviendra, du coup. Mais oui, il y avait le désir de fonder une famille, d'accompagner, en fait, c'est j'ai juste utilisé une image, quoi, tu vois. Le désir de paternité, pour moi, c'est prendre une petite main dans la mienne, qui est beaucoup plus grande, et un soir d'août, d'emmener dehors, et puis d'expliquer les étoiles, d'expliquer l'univers. Voilà, c'est une image de la paternité, c'est ça, quoi.
Ok.
C'est, bon, après, il y a plein d'autres aspects, effectivement, l'éducation, la sécurité, il y a plein d'autres aspects. Mais voilà, j'avais envie de partager avec une petite âme qui s'éveillait encore avec une délicieuse innocence au monde, de pouvoir dire, bah voilà, le monde, il est beau. Il est okay. beau, il faut l'admirer.
Et tu te souviens du jour où tu apprends que tu vas devenir papa?
Ouais, j'étais fou de joie. J'étais vraiment fou de joie, ouais, vraiment. C'était... c'est euphorique, c'est... Ouais, c'est ça. C'était une joie immense. Ouais, je me souviens de cette sensation, hein, vraiment très 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 forte. Quand tout d'un coup, t'as l'impression que t'as toutes les cellules de ton corps qui vibrent avec une harmonie, avec une symphonie. T'as un orchestre dans la tête, quoi, et un orchestre dans le cœur.
Comment s'est passée cette grossesse pour toi? Tu te souviens ou pas?
Alors en fait, je l'ai très peu vécue, cette grossesse. Parce que à l'époque j'étais en formation à Bourges et mon ex-femme était à côté de Salon de Provence.
Okay.
Donc je redescendais les week-ends seulement et du coup je l'ai pas vécu au jour le jour. Et alors ça c'est un truc aussi quand on est militaire, on appelle ça célibat géographique, c'est-à-dire quelquefois pour des raisons familiales, toi t'es muté à un côté et puis la famille doit rester à un autre et tu rentres les week-ends. C'est assez délétère parce que chacun prend ses habitudes de vie. Toi, t'es dans ton boulot, le week-end, tu passes dans une autre dimension. Tandis que la famille, en l'occurrence...
Bah, elle bouge pas, quoi.
Bah, elle bouge pas, elle reste dans son quotidien, dans ses routines de vie. Donc, je l'ai pas beaucoup accompagné, cette grossesse, parce que on a recommencé à habiter ensemble tous les jours, mon fils est venu un mois et demi après. Donc ça a été très très rapide. Donc j'ai pas pu la vivre vraiment cette grossesse, ouais.
OK.
Et je le regrette.
C'est vrai?
Oui, je le regrette parce que pour moi la paternité elle commence même avant la grossesse déjà dans l'idée d'avoir un enfant et elle commence dans la conception, puis on sait très bien que dans le ventre de sa mère, l'enfant entend la voix de son père, il peut sentir la caresse de la main de son père sur le ventre, finalement, ce lien, j'ai pas eu l'occasion de le créer véritablement. Ouais, j'aurais bien voulu.
Ok. Donc, c'était dur pour toi de ne pas vivre cette grossesse à plein temps avec le recul. C'est un truc que tu regrettes aujourd'hui, c'est ça?
Alors, je regrette de pas avoir vécu cette grossesse. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'analyser, si tu veux, cette période à la lumière de ce qui s'est passé après.
Bien sûr.
Et donc, ouais, c'est un petit peu ambigu comme sentiment. J'aurais voulu accompagner la grossesse de mon fils. Est-ce que j'aurais voulu, à ce moment-là, accompagner la grossesse de ma femme? J'en suis moins sûr. Je sais pas si tu vois le truc.
C'était, votre lien était déjà distendu à l'époque, t'as la sensation?
Oui.
Okay.
Oui, clairement. Clairement.
Okay.
Donc, c'est ainsi, hein.
Ouais. T'as le recul de pourquoi t'as voulu faire cet enfant, alors, à l'époque?
Déjà, j'en voulais un.
Ok,
ça c'est clair. Et puis après, il y a aussi le truc où tu te dis, ça va nous consolider. Ça va nous consolider.
Spoiler, ça ne marche pas.
Ouais, je confirme. confirme. Je confirme, mais il n'y a aucun regret par rapport à ça. Parce que j'ai un fils qui est super, que j'adore, qui est un mec bien. Et ça, ça vaut tous les bonheurs du monde.
Donc raconte-moi un petit peu comment, en fait, tu te rends compte entre ces 0 et ces 3 ans que, en fait, tu n'arriveras pas à trouver ta place de père. Parce que si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça.
Oui, c'est ça. Alors déjà, ça a été compliqué au début, puisque quelques semaines après l'accouchement, mon ex-femme est partie en formation, puisqu'elle était militaire également. Elle est partie en formation et ça veut dire qu'elle revenait une fois tous les 15 jours, le week-end tous les 15 jours. Donc je devais, en tant que père, gérer...
T'as fait un congé paternité alors ?
Ça n'existait pas à l'époque.
Oui, je me doute.
Ça n'existait pas à l'époque.
Congé paternité un peu forcé, quoi, finalement.
Même pas. Non. Parce qu'il y avait du coup une nounou la journée, alors qu'il était très jeune. Mais il faisait pas encore ses nuits. Donc toi, tu bosses un métier exigeant la journée. Et puis la nuit, tu dors pas.
Ah oui.
Et ça a duré, je sais plus, 2-3 mois comme ça. Ouais, c'était bien fatigant. Mais ça a permis de créer un lien. Un super lien parce que tu partages quoi, voilà, tu partages et t'es dans le lien, ce que lien d'ailleurs que les mères connaissent beaucoup plus davantage parce que souvent c'est 9 mois dedans, 9 mois dehors un enfant, hein, pour un bon épanouissement. Et ben là j'étais dans les 9 mois dehors et quand elle est revenue de stage, en fait c'était son bébé, c'était son petit homme. Il fallait qu'il dorme dans notre lit. Moi, je disais, c'est hors de question. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je vais pas généraliser ma façon de voir les choses. Et du coup, on allait à la crise, on allait au clash. Et puis, ça se terminait qu'il dormait dans mon lit, je dormais sur le canapé, quoi. Donc, tu vois, on allait sur des choses comme ça.
Il a pris ta place.
Oui, c'est pas lui qui a pris ma place,
bien sûr,
mais
c'est pour elle.
Elle lui a donné cette place. Mmh. Et on était sur des trajectoires très très divergentes par rapport à plein de choses. Il y avait pas d'harmonie par rapport à l'éducation, sur les valeurs, c'était compliqué aussi.
Alors qu'on pourrait se dire, vous êtes tous les deux militaires, tu vois, il y a.
Ouais, mais après, ça dépend. Il y a militaire et militaire, si tu veux.
Chasseurs.
C'est comme les chasseurs.
Les bons chasseurs.
Sauf que j'ai pas beaucoup rencontré de mauvais militaires, mais bon, parce que ce sont quand même des gens qui s'engagent. Chasseur, c'est autre chose.
C'est pour faire référence. Si vous l'avez pas, les jeunes, au sketch des inconnus, le bon chasseur. Enfin, regardez sur Internet, démerdez-vous. Chasseur les inconnus, c'est super.
C'est très savoureux.
Un sketch à l'ancienne.
Mais, donc. Ouais, par rapport d'abord à l'éducation qu'on avait reçue, elle comme moi, enfin des éducations assez différentes. Ça pour moi c'est pas un problème, mais ça dépend après comment cette éducation, ce bagage que t'as eu, tu t'en sers. Ensuite, oui effectivement sur la place de chacun. Et moi je me faisais écarter en tant que père, alors que j'avais créé ce lien pendant quelques mois qui était exclusif finalement, quasiment exclusif. Tout d'un coup, hop, on te l'enlève. Ça c'est très très compliqué. On allait au clash et c'est, je pense qu'un enfant d'ailleurs le perçoit
sûr.
Le perçoit sans aucun doute. Et donc c'est triste à dire, mais finalement mon fils de toute sa vie terrestre n'a jamais vu papa et maman qui s'aimaient vraiment, quoi. C'est dur pour sa construction, ça.
Mais là, il te voit amoureux, là.
Ah oui, il me voit complètement amoureux. Ça, c'est clair.
Ça peut réparer des trucs, hein.
Oui. Écoute, il est bien. Donc, il est vraiment bien. Donc, je pourrais pas dire comment, par quel miracle, c'est un mec bien, qui bosse, qui a des valeurs, qui s'engage pour la société, qui s'engage pour les autres, qui a pas une once de méchanceté. Et ça, c'est fantastique. Donc, c'est ça qui est important, finalement.
Bien sûr.
C'est ça qui est important.
Qu'est-ce qui se passe cette fameuse nuit là où tu décides de faire tes clics, tes claques et que finalement tu te ravises ?
En fait, c'était la journée.
Pardon.
C'était la journée. Je me suis ravisé parce que je pouvais pas le laisser. Vraiment, je ne pouvais pas le laisser, c'était complètement insupportable. Il y a un truc qui est très ancré chez moi, c'est la sécurité de mes proches. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est pour ça que je suis rentré dans l'armée ou si c'est l'armée qui m'a donné ça, peu importe, entre l'œuf ou la poule. Mais je ne pouvais pas le laisser. Alors déjà, j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin de ce lien. Je ne pouvais pas assumer qu'il soit distendu, que ce soit même si dans le meilleur des cas, on a été une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et puis, j'avais assez vite vu, je dirais, que les rapports de mon ex avec son fils étaient ambigus, quoi. Et que il y avait quelque chose de pas sain. Et le laisser, comme ça, sans que je puisse contrôler, vérifier, mettre un holà, quitte à m'engueuler, enfin bon, bref, pour que... je pouvais pas laisser faire.
Okay.
Donc, il y avait ces deux côtés, sécurité, protection, on va dire, et puis le lien d'amour avec lui dont j'avais aussi besoin, parce qu'il me nourrit également en tant que père. Donc, j'ai passé cette nuit sans dormir, à pleurer, le lendemain, j'ai dit à mon ex-femme, je reviens, mais voilà les lignes rouges qu'on ne franchira pas. Pour moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a été d'accord. Et du coup, je suis revenu avec mes affaires. Je n'avais pas pris grand-chose, hein, donc ça allait vite. Je n'avais pas emmené la baignoire, ni l'armoire, ni le frigo. Et puis, avec le temps, les engagements n'ont pas été tenus. Ouais.
Et t'as tenu le coup?
Oui, j'ai tenu le coup jour après jour. Mais il y a un moment, tu te blindes. Enfin, je pense que c'est un réflexe de survie. Tu te blindes, c'est-à-dire au fur et à mesure, c'est comme si tu avais le cuir qui s'épaississait et que finalement les coups tu les relativises davantage et tu acquiers une expérience aussi de la gestion de crise conjugale qui est que tu commences à voir les trucs arriver. Alors, ça dure un temps. Parce qu'après, elle a eu des épisodes psychotiques quand même assez dramatiques, sans rentrer dans les détails, mais des bouffées délirantes, totales, des comportements complètement aberrants. Je veux dire, un soir, par exemple, je suis rentré, il n'y avait plus aucune ampoule dans la maison, sauf une qui était dans la chambre de notre fils, et il fallait que je parle à l'ampoule parce qu'il y avait des micros de la DGSE, soi-disant, dedans, quoi. Enfin, trucs comme ça. Jusqu'à ce qu'elle pense que je voulais la tuer, donc elle s'estimait en état de légitime défense. Très rapidement, j'ai fait lit à part parce que au milieu de la nuit, elle me réveillait pour m'engueuler ou pour me taper dessus. Tu tiens, tu gères cette crise et puis c'est un peu comme un rocher qui est sur la plage. Hein, il prend vague après vague, mais il est toujours là.
Ok.
Sauf qu'au bout d'un moment, c'est du granit, quoi. C'est du béton. Mm. Je peux te dire que là, en termes d'émotion, il n'y avait plus grand-chose qui sortait. Hein. Oui. 50 km de béton.
J'imagine que ça aide vachement le mec que t'es aujourd'hui. Non, à mon avis, t'as fait, mais ça a été compliqué pour toi à vivre, de ce fait-là, émotionnellement.
En fait, tu vis pas.
Oui.
Tu survis, tu gères. C'est pas de la vie, parce que t'es... Enfin, t'imagines, tu bosses... Mm. Et le vendredi soir, tu te dis « Merde, c'est le week-end. » Et le lundi, tu te dis « Ouais, ça y est, je reprends. Oui. » Et en fait, le soir, t'as pas envie de rentrer. Tu le fais, parce que c'est ta place, parce que c'est ton rôle, c'est ta responsabilité aussi, mais t'as aucune envie. Donc, tu vis comme ça. Donc finalement, tu gères des crises au boulot, et puis tu rentres chez toi, t'en gères d'autres.
Ouais.
C'est remarque l'avantage, c'est qu'en gestion de crise, je peux te dire que sur mon CV, je peux mettre putain d'expérience. Hein.
Mais alors, et ton fils là-dedans pendant toutes ces années, comment t'entretiens le lien avec lui?
Alors, tu entretiens le lien. Il y a les devoirs, il y a les repas, il y a dans ces moments-là. Mon fils n'a jamais été un grand expansif non plus. Alors. C'est peut-être les conditions aussi dans lesquelles il a vécu qui ont amené ça. Il a toujours été, par exemple, passionné par les véhicules de police, de gendarmerie. Enfin, dès qu'il avait il a appris à lire l'alphabet sur les plaques d'immatriculation. Hein, donc, c'est un vrai passionné.
Okay.
L'avantage, c'est qu'avec lui dans la voiture, même quand il était enfant, je me suis jamais fait piquer par un radar et repérer les voitures banalisées à 3 km. Hein, un vrai coyote.
Oui, ils avant l'heure.
Ah oui, terrible. Il a une mémoire de ce côté-là qui est fascinante. Et du coup, des échanges, oui, on discutait. C'était pas toujours évident quand sa mère était là, parce que voilà, si j'essayais de lui expliquer quelque chose, elle me rabaissait sur un truc, comme s'il y avait une concurrence et comme s'il fallait surtout pas que le père soit pris en compte, si tu veux, qu'il puisse exister en tant qu'elle. Alors peut-être qu'elle réglait les comptes de son passé. Enfin, ça lui appartient. Je suis pas là pour poser un diagnostic. Mais c'était assez systématique.
Incroyable.
En revanche, les liens après ont été beaucoup plus forts parce que quand mon fils avait 13 ans, mon ex-femme a fait une crise psychotique très très forte. Où là, j'ai dû faire venir le SAMU. Hein, elle répondait plus. Enfin, voilà, je faisais des gestes avec les mains. On était sur quelque chose d'assez curieux. Donc prévenir le SAMU, hospitalisation, et puis c'était internement sous contrainte en hôpital psychiatrique. Moi, j'habitais au nord de Roissy et je travaillais au sud de Paris. Donc avec un temps de trajet de 2 heures, 2 heures et demie le matin, 2 heures, 2 heures et demie le soir.
Pour les gens qui n'ont pas, c'est au nord et en fait tu travaillais au sud de Paris effectivement.
Ouais, donc
sacrée trotte.
Ouais, ça fait une sacrée trotte. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai un fils de 13 ans et demi. Comment on va gérer ça? Et donc, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, écoute, là, j'y arriverai pas tout seul, va falloir qu'on fasse équipe. Donc, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. J'ai réfléchi à des organisations différentes. Je te propose 3 scénarios. Voilà. Donc, scénario 1, scénario 2, scénario 3.
Planification.
Ouais, des organisations, ouais. Des philosophies, si tu veux, de vie, un peu. Et j'ai dit, voilà, faut qu'on fasse équipe. Moi, je veux pas t'imposer quelque chose. Qu'est-ce que tu préfères comme organisation? Donc, il a lu, il a réfléchi un peu, et puis il m'a dit, je préfère celle-là. Je dis, ok, on part là-dessus. On part là-dessus. Et j'ai pu, heureusement, l'armée est bien faite pour ça, quand même. Aussi, quand il t'arrive quelque chose de grave au niveau familial, on essaye de faire au mieux pour que tu puisses gérer ta situation. Donc ça m'a permis d'avoir une affectation très très rapidement, enfin je dis qu'en très très rapidement, en l'espace de quelques semaines, beaucoup plus proche de mon lieu d'habitation.
C'est canon.
Ouais, ça c'est canon. Et puis j'ai géré, et on savait pas si sa mère allait sortir un jour de cet hôpital ou pas. On n'en avait aucune idée.
Comment il a vécu justement tous ces...
Alors,
vous en discutiez tous les deux, ou alors c'est un truc qui était compliqué entre vous, un sujet?
Non,
qui...
c'est pas un sujet compliqué, parce que il avait assisté à des choses qui étaient incompréhensibles, et donc je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que sa maman était malade, que c'était une maladie qui était dans la tête, que c'était une maladie qui était sérieuse, et que je ne savais pas, je ne pouvais pas lui dire quand est-ce qu'elle sortirait. Et je ne pouvais pas lui dire si elle sortait. Donc, j'ai pris le pari, si tu veux, que des mensonges ou éviter de répondre à la question, c'est beaucoup plus anxiogène. Je lui devais ça, donc je lui disais la vérité. Par contre, je ne répondais pas aux questions qu'il ne me posait pas.
Oui. Voilà.
Donc c'est un peu ça. C'est pas je lui déballe tout parce que on n'était pas des égaux quand même. Mmh. Je suis son père et il fallait aussi une référence, quelque part, un socle sécurisant. Donc, c'est surtout pas lui transmettre mes angoisses, mes inquiétudes, me dire comment on va faire, comment on va gérer, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer. Ça, je garde pour moi. Mais simplement dire, on fait équipe.
Même si je crois qu'il se posait vraiment la question. Hein. C'est-à-dire que les gamins, ils se posent beaucoup
doute.
Les questions que
sans aucun doute. Mais en tout cas, toujours avec cette ouverture en disant, ouais. Si t'as une question, j'y répondrai et je te mentirai pas.
Ok.
Donc après, s'il me pose pas la question, c'est son choix.
Et donc, tu disais tout à l'heure que ton objectif à 3 ans, c'est que tu tiennes le coup, entre guillemets, jusqu'à ses 18, j'imagine, quand il est parti faire ses études, c'est ça?
Oui, mais il aurait pu partir à 20 ou 22. Mmh. Donc, il est parti à 18.
Ok.
Donc,
et à 18, donc, toi, t'as pris tes clics, tes claques et...
À 18, demande de divorce. Demande okay. de divorce. Compliqué aussi, parce que du coup, du côté de mon ex-femme, il y a eu une tentative de suicide. Elle a bouffé quand même 90 Lexomil, hein, faut du temps pour les bouffer. Je suis rentré du boulot, je l'ai trouvé inanimé dans la chambre de mon fils. Donc, je suis formé aussi au premier secours. Donc, premier secours, pompier, SMUR, et puis c'est reparti, quoi. Re-hospitalisation sous contrainte. Et puis, lancer la demande de divorce en même temps. Et bah, le temps que les choses se fassent, on était propriétaire d'une maison, voilà, faut vendre la maison. Quand il est revenu de l'hôpital, il a fallu trouver un moment de cohabitation. Le temps que les choses s'organisent. Bon, j'ai été expérimenté à la gestion de crise, donc on continuait. On continuait. Et du coup, bah, j'ai pu enfin reprendre ma liberté en 2019, à l'été 2019.
Ok. Tu rencontres donc cette femme qui est ta compagne actuelle, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, je l'avais rencontrée quelques mois avant, enfin un peu avant. Et c'était juste une évidence, quoi. C'était juste une évidence. Elle aussi en procédure de divorce. D'ailleurs, tu vois, on est en 2023. Elle est en procédure de divorce encore, et moi, je suis encore aussi. Hein. Wow. Ça fait 5 ans que ça dure de chaque côté.
Très, très long.
Visiblement, nos ex ont des points communs.
Puis vous aussi, je veux dire.
Nous aussi. Nous aussi.
Vous vous êtes pas retrouvés peut-être avec, avec non, ces non, personnes-là non, ça, par hasard, quoi.
Ça a été une évidence. Je dirais pas que je l'ai connue, je dirais que je l'ai reconnue. Et elle m'a reconnu aussi. Et extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Ça a été assez fulgurant. Et voilà, c'est... ouais, une évidence. Je sais pas comment le décrire autrement. C'était fabuleux.
Comment ça se passe pour le morceau de granit que t'es?
Ah ouais.
À l'époque, j'imagine.
Oui, que j'étais.
Tu racontais que tu avais fait en sorte d'avoir 50 bons mètres de granit autour de toi.
Ouais, exactement.
Comment tu fais pour retomber amoureux alors que j'ai 50 mètres de granit?
Eh ben, il y a, alors, t'as 50 mètres de granit, mais les 50 mètres de granit, si tu veux, quand c'est lancé, t'as du mal à l'arrêter. Voilà, les 50 kilos de granit. Donc, c'est un peu ça aussi, c'est que je fais assez confiance à mon intuition. J'ai l'habitude d'analyser des situations et puis d'agir vite. Finalement, enfin, c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs dans mon boulot, c'est de décider dans l'incertitude. Oui. Et une fois que t'as décidé, bah, voilà, t'essayes d'éviter. Voilà, tu regardes par le pare-brise de temps en temps un petit coup dans le rétroviseur pour voir du tout bien, mais tu fais pas l'inverse. Sinon, ouais, bah, tu plantes ta voiture. Mmh. C'est pareil. Et bah, je me suis jeté à l'eau très vite. Mais alors, c'était assez intéressant parce que on a commencé par s'échanger des mails. Donc c'était épistolaire et ça m'allait très très bien justement parce que bah c'est une femme puissante, elle est belle, elle est intelligente. Toi tu te dis oh, pff, non, je peux pas y croire, je peux pas croire qu'elle soit amoureuse de moi. Enfin tu m'as eu, je suis comme je suis. Et et du coup on a commencé de manière épistolaire et j'adore écrire. Ça c'est un truc, voilà, c'est j'adore ça. Et du coup, bah, je pouvais me lancer dans le lyrisme. Enfin, c'était beau. Et c'est marrant parce que nos échanges étaient quand même, quand je les relis après, super ambigu, quoi. C'est-à-dire, si tu lisais entre les lignes, tu voyais qu'il y avait déjà quelque chose de son côté, comme divin.
Tu veux dire qu'à la base, vous avez pas, vous êtes pas rencontré, enfin, vous êtes pas commencé à échanger des mails sur un rapport amoureux?
Non, plutôt pas juste... au départ.
Ok, ok.
Pas au départ. Parce que, justement, par rapport à mon blindage, elle avait vu que derrière il y avait des choses, et puis parce que c'est son domaine, elle est psychologue aussi.
Okay.
Elle a soulevé des points intéressants. Mmh. Alors ça n'a jamais été ma psy parce que c'est pas possible.
Non.
Mais elle a soulevé des points intéressants, notamment elle a commencé à me parler du profil, ce qu'on appelle les zèbres, des HPI, et m'envoyer des liens vers des vidéos qui expliquaient. Et là, waouh, révélation, parce que en fait j'ai compris tout ce que j'ai vécu. Où j'étais le vilain petit canard, le lourdeau, celui qui était à côté. J'ai pu tout comprendre. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, je suis pas quelqu'un bizarre. C'est simplement, j'ai un profil particulier. Et du coup, j'ai creusé. Et plus je creusais, plus je lui demandais. Je dis, ah ouais, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Et du coup, on est parti sur ces échanges-là.
Okay.
Où finalement, j'allais très, très vite dans l'apprentissage de ces profils, de la psychologie. Enfin, j'ai toujours été curieux de tout. Et là, je me suis emballé complètement pour le sujet.
Étonnant.
Étonnant. Et dans ses réponses, enfin, il y avait des trucs. Et à un moment, je lui ai dit, bah voilà, c'est vrai que quand je la voyais, parce qu'on bossait ensemble, quand je la voyais, je tremblais. Je lui ai dit, voilà, je sais pourquoi, en votre présence, justement comme on bossait ensemble, on se voyait, je tremble. Et elle me répondait que l'onde de ce tremblement se propageait jusqu'à sa rive. Enfin, on était,
wow.
Mais c'était beau, c'était vraiment magnifique. Et à travers nos échanges, je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon tu vas faire un podcast de 5 heures, mais il y avait énormément de synchronicité. Sur je lui parlais de quelque chose, ou j'écrivais sur quelque chose, et c'était quelque chose qu'elle venait de vivre, sur des symboles énormes. Et c'était une évidence. Et c'est elle qui m'a déclaré sa flamme en m'envoyant juste une chanson.
Quelle est cette chanson, c'est pas indiscret?
C'est Yellow de Coldplay.
Ok.
Je sais pas si tu la connais.
Bah oui, bien sûr. Ouais.
Et tu vois, il y a un moment, et il dit, bon, look at the stars. Il dit, you know I love you so. Il s'arrête et il le répète. You know I love you so. Et moi, j'entends, je reçois la chanson. J'entends le premier, you know I love you so. Et là, je me dis, hein, quoi? Comment? C'est pas... J'ai dû me tromper. Et là, il le répète. J'ai dit, ah non, non, non. En fait, non, je me suis pas trompé. Donc,
faut savoir lire entre les lignes. Hein.
Oui, 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 c'est ça. Mais c'était super beau et ça a permis de m'apprivoiser, d'être en échange épistolaire où je pouvais être vraiment moi, caché derrière mon clavier et y aller dans le lyrisme, ce que j'adore en fait, dans la beauté des mots, la beauté des phrases. Et finalement, ça a commencé comme ça.
Commencer à te débarrasser un peu de ton granit, c'est ça?
Ouais, commencer. Ouais. Mais là, on avait juste pelé les premières couches. Hein. Ah ouais. Il y en avait quand même quelques-unes, c'était un sacré oignon. Et ensuite, elle m'a parlé de stage, de travail sur soi. Et quand je me suis senti prêt, on a juste parlé, non pas en me disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais tiens, il existe ceci, il existe cela. Et quand le moment était OK pour moi, bah, j'ai foncé. Donc j'ai fait 3 fois une semaine. Enfin les deuxième, troisième paliers, c'était un peu moins d'une semaine d'un stage extraordinaire. Ça s'appelle la réconciliation avec soi-même, travail de groupe où là, on se met à poil quoi.
Ça marche bien le travail de groupe.
C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et là j'ai connecté des choses très puissantes. Et puis au fur et à mesure de ces ateliers, j'ai pu comprendre comment je fonctionnais. Pourquoi j'avais pu tenir justement pendant cette, je vais appeler ça la réclusion conjugale. Pourquoi je m'étais engagé dans l'armée, pourquoi je réfléchissais comme ça. Et donc quand t'as la clé de ça, bah tu peux agir dessus en disant ok, est-ce que j'en ai encore besoin de ça? Et finalement, est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et là du coup bah tu commences à décider de ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire de rejoindre le vrai toi. Enfin, le vrai moi, en l'occurrence.
Ouais.
Donc, j'ai enlevé le béton. Mais j'ai un avantage, c'est que maintenant, j'ai une armure amovible. C'est-à-dire que je sais la remettre aussi quand il faut.
Ouais.
Et je sais l'enlever. Donc, c'est devenu une compétence.
Ok. Et tu arrives à la mettre et à l'enlever facilement?
Oui, quand sont les circonstances extérieures qui m'époussent, hein.
Okay.
C'est-à-dire quand je suis en famille, je peux être vraiment moi, j'ai pas de rôle à jouer, j'ai pas de crise à gérer,
ouais.
Enfin si quand même, parce qu'il y a l'adolescence qui arrive. Et puis à l'extérieur, je peux m'ouvrir, mais quand je vois que ce sont des gens qui ne sont pas éveillés, je dirais, dans le sens un travail sur eux, je vois très bien les blessures qu'ils portent, je vais pas rentrer en pleine vulnérabilité par rapport à ces gens-là. Je suis quand même dans un domaine où la vulnérabilité de l'homme, dans son cœur masculin qui peut être de temps en temps tout mou, c'est pas forcément très bien vu.
Ouais.
Tu imagines bien.
Oui.
Donc, il y a un côté.
Tu sais jouer, quoi.
Je sais jouer
entre les deux. Alors, comment ces enfants rentrent dans ta vie? Parce que apparemment, c'était pas prévu, tu disais tout à l'heure.
Oui. Elle m'avait prévenu que de toute façon, si on se mettait ensemble, il y avait le package complet.
Oui.
Les deux enfants et le chat.
Très important, le chat.
Très important, le chat. Et oui, très bien. Justement, moi, je voulais initialement plusieurs enfants, mais je les connaissais pas encore, les siens. J'avais compris qu'ils étaient pleins de vie.
Et comprendre agité, c'est ça, ou genre des gamins?
Non, ils ont. Alors agité, c'est pas, je dirais pas ça. Ouais. Sont des enfants qui sont très futés, qui s'intéressent à plein de choses. Et quand je dis plein de vie, ils ont une grande imagination, ils ont beaucoup d'énergie. C'est pas de l'agitation en soi-même. Voilà, mais c'est pas des enfants que tu vas retrouver quatre dans un coin avec un bouquin, quoi. Mmh. C'est pas comme ça.
Okay.
Et c'est chouette aussi. Mmh. C'est chouette aussi,
bien sûr.
Et donc, initialement, je devais apparaître progressivement dans leur vie. Leur mère se séparait.
Oui, c'était tout récent, c'est ça.
Elle avait lancé la procédure un peu avant.
Oui.
Ensuite, j'arrive dans sa vie. Et les enfants, déjà, séparation des parents, un nouveau domicile, enfin deux domiciles. L'ancien et puis le nouveau dans lequel tu bascules une semaine sur l'autre, c'est déjà traumatisant pour des enfants. Ouais. Ça bouleverse complètement à la fois leur équilibre et leur univers. Et là, présenter tout d'un coup, au fait, il y aura un nouveau monsieur qui va arriver. Non, c'était pas envisageable. Mmh. Donc, la priorité, c'était de toute façon d'abord la sécurité des enfants, qu'elle soit physique ou psychologique. Ça a toujours été notre priorité. Et donc, je devais apparaître progressivement dans la vie, un apéro de temps en temps, et puis un dîner, puis un week-end. Donc, on avait lissé ça sur entre un an ou deux ans, suivant la façon dont ça se passait. Alors ça, c'était le plan. Voilà. Mais le plan, il vole toujours en éclat au premier coup de canon.
Oui. Et c'est un militaire qui vous le dit.
Oh oui. Et donc, il y a eu un apéro qui s'est très bien passé. Alors, c'était à la demande de Victor, qui avait demandé, Victor l'aîné, qui à l'époque avait 9 ans, qui a demandé à sa maman si elle avait un amoureux. Et comme elle a le même principe aussi, qui est toujours dire la vérité, elle a dit oui, j'ai un amoureux. Il a dit, je veux le rencontrer. OK. Donc, je suis venu pour un apéro. C'était assez rapide, mais je sais qu'à la fin de l'apéro, ils m'ont sauté dessus. Voilà, ils ont décidé de faire une pyramide humaine sur moi. Bon, à la base.
Bah oui.
C'était déjà, ça montrait qu'il y avait déjà un lien qui était là. Et voilà, ça devait être progressif. Et puis, il est arrivé un truc bête de plomberie. Parce que Victor commençait à prendre la place un peu de l'homme. Enfin, ouais. Comment elle va faire maman si les plombs sautent. Je vais t'aider maman du haut de ses 9 ans. Voilà, une place qui n'est pas la sienne. Il y a eu un problème de plomberie. Bah, schématiquement, elle faisait la vaisselle dans l'évier. Et puis, il y avait les toilettes qui débordaient avec toutes les matières qui allaient bien, qui se répandaient dans l'entrée. Magnifique. Et donc, elle m'a appelé. Je suis venu. Bon, camion pompe, enfin, un truc classique. Et je suis resté pour dîner. Et à la fin du dîner, Victor m'a dit « Mais tu seras là demain matin ?» J'ai dit « Bah écoute, tu as envie que je sois là demain matin ?»« Ah ouais, j'ai envie que tu sois là. » »« Bon, d'accord. » Donc je suis resté. Le lendemain matin, il partait à l'école. Il m'a dit « Tu seras là ce soir. » Je dis « Tu as envie que je sois là ce soir ?»« Ah ouais. » »« Bon, d'accord. » Et en fait, je suis jamais parti. Du coup.
Incroyable.
C'est lui qui a choisi que je devais être dans leur vie. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire parce que on a tendance à penser la chose de manière descendante, c'est-à-dire c'est le nouveau conjoint qui arrive, qui doit adopter les enfants. Là, c'est les enfants qui m'ont choisi. C'est beau, quoi.
Ah, ouais,
c'est juste beau. Et du coup, ma place, elle s'est construite naturellement dans le temps et elle correspondait à leurs besoins. Ils ont hélas un père qui est très déficient sur l'éducation. Enfin, qui pensent que l'éducation, c'est l'éducation à l'autonomie, c'est laisser les enfants livrer à eux-mêmes devant des écrans. Bon, c'est un concept. Alors que moi, j'accompagne pour les devoirs, je fais la cuisine aussi, enfin, quand j'ai le temps de la faire, mais j'adore faire la cuisine, les courses, enfin, de la présence, et puis expliquer le monde, être prêt aussi à les sécuriser. Par exemple, à un moment, il y avait un des deux qui était harcelé un peu à l'école, enfin qui prenait des réflexions. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Si t'as des problèmes avec quelqu'un à l'école, tu viens te chercher à la sortie de l'école en tenue de combat. Et je l'aurais fait. Mais du coup, les enfants ont été.
Tu gagnes tellement de points.
Mais les enfants ont été sécurisés. Mmh. Pas de peur. Et donc, ils ont été capables, Victor en l'occurrence, qui était harcelé par un enfant. Ma compagne avait été voir les parents, mais non, c'est pas vrai, pas notre fils. Et puis, de toute façon, la vie, c'est un combat, c'est plus fort que sur lui. Bon, bref. Et du coup, avec cette sécurité, ça leur permet également d'oser, de dire et d'agir en maturité. Et Victor a eu cette réaction fabuleuse, c'est-à-dire qu'il passait du primaire au collège, il prenait le bus pour aller au collège, et les seuls qui passait de cette école de notre village vers ce grand collège, c'était lui et son harceleur. C'est dur. Et du coup, Victor a été voir son harceleur dans le car et a dit, écoute, c'est très simple, il n'y a que nous deux. Il n'y a que moi que tu connais et toi, t'es le seul que je connais. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'on va continuer comme l'année dernière? Ou est-ce que on va décider de sortir de ça et de se tenir les coudes parce qu'on est les deux nouveaux? Qu'est-ce que tu choisis? Fin du harcèlement.
Bien joué.
C'est chouette. Hein. Mm. Ouais, ils sont surprenants. Quelquefois, ils te donnent des leçons. Extraordinaire. Et bah écoute, ça se passe vraiment naturellement. Tu vois, là, par exemple, je sais que je vais pas être là ce soir. Ils savent pourquoi. Mais bah pour eux, c'est dur. Hein. C'est dur que je sois pas là. Donc, ils me sautent au cou quand on se retrouve bah, une semaine sur deux. Enfin, c'est...
Oui.
Et chose extraordinaire aussi, c'est qu'avec mon fils, qui pourtant a un grand décalage,
oui,
ça se passe fabuleux. D'ailleurs, mon fils parle de ses frères.
Ah, ça y est.
Ah oui, 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 mais c'est dès le début.
Oui.
Dès le début, il a été Victor qui cherchait déjà à avoir un grand frère, un modèle. Ça s'est fait tout de suite. Mais alors, c'est de la magie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, du miracle, appelle ça comme tu veux.
Bah, c'était à un moment donné, il y a les trucs qui s'alignent, quoi, tu vois, et que...
C'est ça. C'est ça, et puis...
Parce que naturellement.
Et puis peut-être que les valeurs que ma compagne a transmises à ses enfants, les valeurs que j'ai transmises aux miennes, font qu'il y a une compatibilité des états d'esprit. Et du coup, on se fait des sorties en vacances, on se fait des sorties le week-end, où on est tous ensemble.
Ouais, et avec ton fils, donc.
Ouais, quand il peut venir. Et c'est une vraie famille. Une vraie famille. J'ai maintenant une vraie famille dans laquelle j'ai hâte de rentrer le soir, j'ai hâte de vivre plein de choses avec eux. Voilà, c'est il a fallu, tu vois, que j'attende d'avoir 46 ans pour connaître ça. Mais je le connais.
Ouais. Et quand tu regardes en arrière?
Quand je regarde en arrière, je me dis finalement, tout ce que j'ai subi pour en arriver là, quand je vois la beauté de la chose, ça valait le coup.
Mmh.
Ouais, ça valait le coup.
J'imagine que tu regrettes pas de pas t'être cassé cette fameuse journée là.
Ouais, mais alors on peut pas revenir en arrière et pour faire du replay en disant j'aurais dû, j'aurais pas dû. Je pense qu'on prend les décisions à un instant T en fonction des éléments qu'on a à cet instant. Alors rétrospective. Après, on peut avoir plein d'autres informations qui viennent dire si c'était une bêtise ou pas. Mais, et encore, enfin, il n'y a pas de bêtises, hein, comme disait Nelson Mandela, soit je réussis, soit j'apprends.
Oui.
Mais en tout cas, ça m'a amené là. Alors, oui, commencer à être heureux dans sa vie à 46 ans, on peut se dire, ça fait du temps gâché, quoi. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai vécu jusque-là qui m'a amené à devenir qui j'étais pour vivre ça. Donc, si j'avais pas vécu tout ça, on peut aussi se dire, que j'aurais pas été j'aurais pas été la personne que je suis qui a permis que cette harmonie se crée. Tout simplement. Donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. J'ai pas de regrets, ça m'a appris plein de choses, ça fait de moi qui je suis, j'ai pu éclaircir ça avec le travail par la suite.
Le travail thérapeutique, tu veux dire?
Travail thérapeutique, oui. Alors, j'ai jamais vraiment bossé avec un psy parce que, alors, j'ai un problème, c'est que justement cette suradaptabilité à la gestion de crise fait que je le vois venir. Je le vois venir à 3
kilomètres. Ah ouais, tu lâches pas.
Ah ouais, c'est très compliqué pour moi.
Ok.
Je le vois venir à 3 kilomètres.
Toujours dans le contrôle.
Ah oui, oui. Et du coup, j'ai des manœuvres d'esquive pas possibles. En fait, ils arrivent pas à me choper. Et justement, le travail que j'ai pu faire.
Excuse-moi, mais c'est bizarre parce que le psy est là pour t'aider. Et ouais. En fait, je te le dis, mais je le dis aussi pour les gens qui seraient plutôt réticents, c'est que pour moi, le psy, il est là pour t'aider. Et en fait, c'est pareil de vouloir l'esquiver que d'aller voir un dentiste et de fermer à moitié la bouche.
Oui, mais c'est la même logique. Je vais reprendre ta métaphore. Ouais. Tu fermes à moitié la bouche parce que c'est un réflexe, parce que tu sais que tu vas avoir mal.
Okay.
Et là, typiquement, dans le travail sur toi, et c'est ça qui est intéressant, je commence à accompagner, à coacher des hommes. Et typiquement, l'endroit où ils veulent esquiver, où ils ne veulent surtout pas aller, c'est là où est la problématique. La problématique, elle est là où tu ne veux pas regarder. C'est ça qui... comme le dentiste, tu sais que tu vas avoir mal, donc instinctivement, réflexe, tu fermes la bouche. C'est un réflexe de défense, normal. Et du coup, j'ai pu travailler avec des états de conscience modifiés à travers simplement la respiration, des techniques de respiration, des musiques qui permettent en fait de court-circuiter le mental. Et là, tu vas travailler directement dans l'émotionnel. Et la vache, ça envoie. Ça envoie. Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris?
Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai pas raconté toute ma vie, mais j'ai compris une chose. c'est que finalement, le sacrifice de moi, enfin, le sacrifice, bah, c'était une raison de vivre. Alors, c'est paradoxal, parce que le sacrifice qui peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre vie, bah, c'était une raison de vivre.
Bah oui.
C'est-à-dire que, bah, comme j'étais...
En même temps, c'est assez aligné avec ton métier.
Oui, mais justement, j'ai compris pourquoi j'étais rentré dans ce métier. Alors, j'étais pas suicidaire, pas du tout. Mais ma vie me semblait pas avoir d'importance. Donc, voilà, si bah, en traversant la rue, je devais me faire écraser par un camion, bah, voilà, c'est comme ça. Point final. Et donc, bon, aussi parce que j'avais pas de raison de trouver le bonheur, en fait, vous voyez, c'était un peu comme ça.
J'avais pas de raison de trouver le bonheur.
Bah, non, je le trouvais pas le bonheur. Enfin, je savais que je le trouverais pas dans mon couple, que je le. Donc, voilà, à quoi bon? À quoi bon? Si ce n'est, bah voilà, cette responsabilité vis-à-vis de mon fils. Et du coup, ce que j'ai compris à travers ce travail, c'est que, bah, manquant d'amour, enfin, ayant manqué d'amour, bah, j'étais pas digne d'être aimé. C'est la conclusion logique, parce que tu essayes de comprendre pourquoi. Pourquoi tu manques d'amour. J'étais pas digne d'être aimé. Bon, je suis pas digne d'être aimé de mon vivant. Alors, je schématise, c'est très caricatural, parce que c'est un long process, mais du coup, bah, la solution, c'est de mourir en héros. Quoi. Donc, de se sacrifier. D'être aimé par son abnégation.
Pour laisser une trace.
Pour laisser une trace. Et donc, c'est fou, parce que c'est justement en se niant soi-même qu'on pense pouvoir être aimé. Alors qu'en fait, le bon raisonnement, c'est de se dire, c'est parce que je m'aime moi que je peux être aimé.
Bah oui.
Bah oui, mais voilà, ça je l'ai compris après, à la fin du processus. Mais c'était ça, le but de ma vie, c'était de mourir en martyr, quelque part. Et donc, bah, c'est pour ça que finalement, j'ai pu tenir tout ce temps pour protéger mon fils, parce que finalement, bah, on est dans la même logique. Je me sacrifie pour les autres. C'est là, il y a un syndrome du sauveur XXL. Hein. Tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Je travaille dessus. Il y a encore des réminiscences, mais je travaille dessus.
Comment t'en es venu à te reconvertir? Tu sais, tu disais tout à l'heure que tu étais en reconversion et tu vas travailler avec des mecs, c'est ça?
Alors, c'est ça. Mon but, alors, c'est d'avoir à la fois un emploi salarié, parce que c'est toujours pareil, la sécurité financière, c'est important pour la famille aussi. Et je vois bien que dans le milieu de l'accompagnement coaching, avant que tu te fasses un nom, avant que tu remplisses tous tes créneaux, et puis... le système étant ce qu'il est pour les indépendants et pour les libéraux, bah, c'est quand même pas évident de dégager de quoi en vivre. Hein. Je pense que tu sais de quoi je parle.
Oui. Tout à fait.
Donc, une activité salariée et puis l'accompagnement coaching spécialisé dans le masculin. Alors, pourquoi le masculin? Tout simplement, c'est pour moi, c'est une continuité. Finalement, dans l'armée, bon, il y a une féminisation des armées, hein, évidemment, et qui est souhaitable. Mais quand même, la plupart sont des hommes.
Oui. C'est 25%, c'est ça?
Alors, ça dépend des armées. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Dans l'armée de l'air, c'est 25-27%. Beaucoup moins chez les pilotes et les mécaniciens. Beaucoup plus dans les fonctions administratives. Dans le contrôle aérien, beaucoup de femmes, qui sont d'ailleurs meilleures que les hommes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu.
Okay.
C'est ce que j'ai vu, c'est juste mon jugement. Une voix qui passe mieux à la radio, une division de l'attention meilleure. Enfin, bref. C'est juste mon point de vue. J'ai pas vu d'études là-dessus. Je voudrais froisser personne qui écoute. Donc oui, beaucoup plus de mecs. Et puis de mecs, voilà, on est des bonhommes, quoi.
Ils ont un bon granit autour d'eux aussi, quoi.
Ouais, alors c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, c'est que je me suis rendu compte, quand je discutais individuellement, voilà, une pause café, une pause cigarette, il y a des gens qui avaient des vraies sensibilités, voilà, qui pouvaient s'émerveiller de choses, Et puis alors, dès que c'était en groupe, on est des bonhommes, avec conversation de vestiaire, etc. Tu les prenais individuellement. Alors, quelquefois, dans un groupe, t'en avais, on va dire, sur 10, t'en avais 8 que tu savais étaient sensibles. Et là, tout d'un coup, ça devenait des Cro-Magnons, quoi, dans cet effet de meute. Et je trouvais ça, d'abord, assez intéressant. Ensuite, j'ai toujours aimé la transmission et j'ai accompagné beaucoup de jeunes qui voulaient passer le concours pour passer officier. Donc, à travers des séances de préparation à l'oral, à l'écrit, j'ai fait pas mal de jurys blancs pour différents concours. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de dire « il faut faire ci, il faut faire ça » ou « il faut dire ci, il faut dire ça ». C'était de pousser la personne à comprendre, à intégrer et à réaliser qu'elle avait ça en elle. Et que c'était déjà là. Il fallait juste le faire sortir, quelquefois le mettre un petit peu en forme, c'est tout. Mais ça, c'est de la cosmétique. Mais que c'était déjà là. Et ben finalement, je faisais un peu comme Monsieur Jourdain, je faisais de l'accompagnement sans le savoir.
Ouais.
Donc j'ai fait ça pendant pendant une bonne partie de ma carrière. Et puis via des relations, j'ai rencontré Mathieu Thomé que tu as reçu dans le réseau qu'il avait créé Mycelium, et il m'a proposé d'y aller. Bon, j'ai rempli la lettre de motivation, le formulaire, en disant bon, je vais dire comme je suis, et puis ça passe pas. Si ça passe pas, bah c'est ok, parce que ça veut dire que c'est pas pour moi et que je suis pas pour eux. Et j'ai été accueilli, alors que j'étais dans ce domaine-là depuis pas mal de temps, quoi. Et moi, j'arrivais, je connais rien, enfin bon. Et ça m'a permis, on a fait un week-end séminaire, ça m'a permis, avec donc 13 autres hommes, on était 14 au total, et j'étais le seul qui n'avait pas d'expérience, enfin, je pensais.
Oui.
Et j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité, justement à cette occasion-là, parce qu'à chaque fois, quand j'intervenais, bon alors, en tant que néophyte, en tant que béotien, en tant que noob, comme on dit de nos jours, ils m'ont fait comprendre que ma légitimité, elle était pleine et entière, à la fois à travers ce que je montrais, qui j'étais, mais que surtout, oui, j'avais accompagné des hommes pendant très très longtemps. Et aussi, cette expérience de ma carrière m'a montré ce que le masculin pouvait avoir de beau, mais aussi tout ce qu'il pouvait avoir de moche. Parce que globalement, à part une chanson de Renaud assez célèbre, c'est quand même les mecs souvent qui font la guerre, quoi.
Ben oui.
Donc il y a une part d'ombre aussi dans l'homme qui est fondamentale. Et avec beaucoup de rapports de domination. D'ailleurs, c'est assez génial parce que finalement, les grades sur les épaules, ça indique le niveau de nuisance potentielle d'une personne, ça indique sa place dans la chaîne alimentaire. T'as pas besoin de dire un mot. Tu arrives dans une pièce, on t'a tout de suite situé. C'est
clair.
C'est très très pratique.
L'uniforme, ça sert à ça. Hein.
Et c'est assez rigolo parce que tu vois, en plus, on met des barres, symbole phallique s'il en est. Donc moi, j'en ai plus que toi. T'as vu. Bon, c'est on est dans quelque chose de pas mal. Du coup, beaucoup de rapports verticaux, hiérarchiques, des rapports de domination, puis qu'on retrouve beaucoup dans la société, hein, en règle générale. Enfin, c'est ce que je vois dans la société. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, mais comment on pourrait arriver à des rapports de collaboration et pas de domination? C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Donc, passer à cette sorte de voie du milieu, si tu veux, un peu de troisième voie. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est assez simple. Il faut agir sur, il faut agir sur trois domaines. C'est père, père et père. Alors père dans les liens de père, le père de famille, parce que un homme c'est un fils, mais c'est aussi potentiellement un père. Mmh. Et donc, dans sa dimension de paternité, qu'elle soit ascendante ou descendante. Alors père, P-A-I-R aussi, vis-à-vis de ses égaux, comment on est. Et puis père, P-A-I-R-E, en couple. Donc en couple homosexuel, hétérosexuel, peu importe, mais comment on est en couple, à cheminer ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans toutes ces dimensions-là. Et puis aussi Mathieu Palin, que tu as reçu, je crois.
Dans Histoire de mec, pour le coup, dans Les Hommes qui
a écrit un livre
sur les hommes violents,
les cercles, quand il assistait au cercle d'hommes violents. Et effectivement, cette question de la violence qui est en soi. Et quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est-à-dire d'où ça vient, comment ça se manifeste, pourquoi ça se manifeste. J'avais travaillé notamment sur les phénomènes de djihadisme et de voir que quelqu'un normal pouvait basculer dans quelque chose d'absolument abominable, mais tout en continuant à aimer ses enfants et à s'émouvoir d'une photo de chaton. Enfin, il y a comme un paradoxe. De dire que finalement, on a ça en nous. Quelque part. Mais la question, c'est est-ce que on l'apprivoise? Est-ce que cette colère, cette violence, qu'est-ce qu'on fait? On en a peur, on la met dans un placard en sachant qu'elle risque d'ouvrir le placard à un moment où on s'y attend pas? Ou finalement, est-ce que ça, c'est pas aussi une force de vie?
Je tiens à préciser un truc, c'est que, en tout cas, moi, de mon point de vue, l'un des problèmes avec la violence, c'est qu'on l'un des problèmes avec la colère, pardon, c'est qu'on l'associe souvent à la violence, alors que il y a un truc que je crois, c'est que, en fait, pour moi, la violence arrive une fois que la colère n'a pas été correctement exprimée. Mmh. En fait, elle se transforme en violence. C'est-à-dire que, pour moi, l'un des problèmes des mecs, actuellement, et en fait, peu importe, des gens violents d'une manière générale, c'est qu'ils sont en colère, qui sont incapables de l'exprimer avec des mots et d'accéder à leurs émotions, le granit, le machin, tout ce qu'on veut. Et en fait, plutôt que de faire ce travail-là sur eux et d'aller chercher en eux qu'est-ce qui les met en colère, etc., ça se transforme en violence.
Oui, c'est, effectivement, ça s'exprime par les gestes, ce qui ne peut pas s'exprimer par la parole.
Mais tu vois, je trouve qu'il y a un biais, en fait, parce que tu associes les deux, tu vois, je trouve que de ce fait-là, on a tendance, nous, en tant que mecs, à faire en sorte de ne pas accéder à notre colère, alors que parfois ça fait c'est trop bien d'être en colère.
Mais et c'est nécessaire.
Si tu la transformes pas en violence en fait.
De toute façon, soit si tu la gères pas ta colère, si tu ne l'accueilles pas, et que en gros la vague arrive, tu surfes ou tu bois, donc il vaut mieux surfer dessus.
Ouais.
Et si tu ne l'accueilles pas, cette colère, tu ne la reconnais pas en tant que telle. Oui, elle va s'exprimer en geste, violence. Ou alors elle va pas s'exprimer du tout. Et là, elle va s'incarner. Et ça va être encore pire. Alors, en termes de symptômes, en termes de symptômes physiologiques, là, tu vas morfler. Oui. Ton corps, il va te dire « Ok, d'accord. » et oui, tu vas déguster. Donc, mais pour pouvoir l'exprimer, cette colère, c'est bien quand il y a quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut l'accueillir. Et c'est là, justement, qu'il y a un rôle intéressant. C'est « Ok, t'es en colère. Vas-y, crie. Vas-y. » Exprime, sors-le, sors tes tripes. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et finalement, c'est aussi ce que font les militaires. Hein, globalement, c'est que t'es en colère, t'as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu gueules et t'y vas. Et ça marche.
Ouais.
Et ça marche. Donc, oui, il y a tout ce travail-là, mais il y a aussi les peurs qui sont non acceptées. La peur d'être délaissé, la peur de pas être aimé, la peur de pas être à la hauteur, la peur de décevoir, toutes les peurs, il y en a une collection pas possible. C'est pareil, pourquoi on peut pas les exprimer? Parce qu'on est des bonhommes, on n'a pas peur. Si, on a tous peur. D'ailleurs, celui qui dit « moi j'ai pas peur », c'est que justement il cherche à montrer qu'il a pas peur, donc c'est qu'il a peur de... Voilà. Bon, d'être en honnêteté et d'être en vulnérabilité. Oui, un mec, ça pleure.
Ouais.
Et ça fait vachement de bien, d'ailleurs.
Oui.
Parce que les larmes, si tu les sors pas, il y a un moment,
ça va faire cocotte minute, quoi.
Ouais, ça va faire cocotte minute. Et je l'ai connu. Je l'ai connu parce que, justement, ces émotions dans la gestion de crise, pendant ma vie conjugale passée, je ne l'ai pas sorti. J'étais dans la maîtrise, dans le contrôle. Et c'est simple. J'ai développé une maladie des yeux. Qui fait que j'ai eu un œil crevé et que l'autre était touché. Je me suis réveillé un matin, comme ça. Wow. Et à l'hôpital, ils m'ont dit « Mais monsieur, votre œil, il est crevé. » Et c'est mal barré pour l'autre. Donc la perspective, c'est d'ici 1 à 5 ans, vous serez aveugle. Ok, super. D'accord. Donc qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, essayez d'apprendre le braille parce que c'est quand même mieux quand on voit quelque chose. Ok. Et puis, je me suis dit, au niveau de l'armée, tiens, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a comme poste pour handicapés, d'ailleurs. Ça, l'administration, dans toute sa splendeur, j'avais contacté en disant, il est probable que je sois aveugle d'ici 1 à 5 ans. Qu'est-ce que vous avez comme poste à me proposer? Écoutez, on a câbleur informatique. Ouais, alors là, je suis pas sûr que je reconnaîtrai le fil vert du fil rouge. Je dis, non, on va être sérieux. Je vous dis, je vais être bientôt aveugle. Qu'est-ce que vous allez me proposer? J'ai une fiche, je vous l'envoie. Donc, je reçois le mail et là, j'éclate de rire. Il m'avait proposé d'être plieur de parachute.
Incroyable.
Alors là, je me dis, t'arrives avec tes lunettes noires, ta canne blanche et tu dis au type qui va sauter, ayez confiance, c'est moi qui l'ai plié. Ça va bien se passer. c'est assez rigolo, mais ça a un côté grotesque aussi. Et puis, le verdict était tombé, mais parce que j'exprimais pas mes émotions. Ok, tu veux pas voir? Mon corps a dit, ok, pas de problème, je vais te rendre ce service, tu vas plus voir.
T'as retrouvé la vue?
Alors, je ne l'ai pas perdu.
Incroyable.
Je ne l'ai pas perdu. Et tout simplement parce que déjà ça me paraissait inconcevable que je vois plus. Enfin, j'ai jamais vécu dans l'angoisse de me dire, tu seras aveugle. Je crois qu'au fond de moi, je l'ai pas cru. Et puis, au fur et à mesure, je me rapprochais des possibilités de sortir de cet enfer, de cet enfermement aussi. Je gérais avec mes médicaments, mais l'échéance n'est pas vue. Et tu sais qu'il y a un truc qui est quand même fabuleux, c'est que à la réflexion, quand est-ce que mes problèmes aux yeux ont commencé? Ça, dans mon parcours, on m'a posé la question. Et je me rappelle que le jour de mon mariage, j'avais dû mettre du maquillage sur les paupières parce qu'elles étaient explosées.
Ouais.
Et tous les 3 mois, j'avais des crises. Ça fait 5 ans que j'en ai plus.
C'est fou quand même.
Ouais. Comme quoi, le pouvoir, tu vois, de ne pas sortir ses émotions, d'être dans le contrôle. Bah, en fait, tu contrôles pas ton corps. Hein. Ton corps, il t'envoie les messages. Tout simplement.
Ouais. Et puis, ça veut pas dire que t'avais pas de trucs physiologiques, hein, que t'avais pas des problèmes physiologiques.
Il y avait des trucs physiques. Ah, bah oui, clairement. Oui, j'avais un œil crevé, j'avais un trou dans l'œil. Oui,
incroyable.
Ça a été jusque-là. Et là, plus rien. Donc, oui, n'ayons pas peur de notre vulnérabilité, n'ayons pas peur de nos émotions. Et bah, il faut que les hommes apprennent à être pleinement vivants de ce côté-là aussi. Enfin, j'en ai la conviction, il y en a qui ont fait des beaux chemins dans notre cercle. On voit des hommes extraordinaires, ouais. J'en ai croisé pas mal aussi dans mon parcours. Mais quand même, il y a du boulot, il y a du boulot. Et les femmes ont un sacré temps d'avance hein, de ce côté-là.
Bah oui.
Et elles font des parcours magnifiques. Et d'ailleurs, quelquefois, quand on creuse sur les parcours, on se dit, mais en fait, le problème, c'est pas elle.
Alors, oui. C'est-à-dire que vraiment, pour faire ce métier depuis un petit moment, alors après, c'est plus simple, entre guillemets, pour elle, parce que dans la société patriarcale, Elle, c'est OK d'accéder à leurs émotions, voire même c'est encouragé depuis qu'elles sont toutes petites, etc. C'est OK de pleurer, machin. Donc, c'est sûr que le granit, il est moins... Si tant est qu'elles aient du granit, tu vois, c'est sur d'autres choses. Mais le granit, il est moins violent qu'aller creuser chez les mecs qu'il faut plier en deux pour leur faire sortir une larme, quoi, tu vois.
Ouais, mais alors, tu vois, c'est ça le paradoxe. C'est que, justement, on est des bonhommes, on est courageux, on n'a pas peur. Bah alors, pourquoi t'as peur de pleurer?
Bah oui.
Et là, déjà, tu commences à aller...
Question piège.
Et justement, dans la question de ma légitimité, à travers les premières personnes que j'ai accompagnées, c'était, les hommes disent, ouais, ok, moi, je veux bien être un homme qui m'accompagne sur ces questions-là, mais je veux pas, je veux un mec, quoi. Ouais. Ok, il a 30 ans d'expérience militaire. Ah ouais, ça passe mieux. Et du coup, c'est comme si, j'avais mon diplôme de virilité, c'est aussi aberrant que ça soit, et du coup, ça passe mieux.
Incroyable.
Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai vraiment envie d'œuvrer. Pour moi, c'est une continuité à travers ce que j'ai fait, qui est être au service du plus grand nombre. Alors, en commençant par des cas individuels, parce que je crois beaucoup à la théorie des taches d'huile. Tu sais, tu changes une personne. Mmh. Enfin, tu changes pas une personne, d'ailleurs. Tu aides une personne à accoucher vraiment d'elle-même. Et du coup, si elle y allait mieux... Elle est mieux avec les autres, donc les autres autour vont mieux, et ainsi de suite. Bien et comme sûr. Des petites gouttes d'huile sur un buvard, ça fait des auréoles de plus en plus larges et qui, au bout d'un moment, se rejoignent. Dans un monde où on serait un peu moins dans des rapports de force et un peu plus dans des rapports d'amour.
Et là, vous avez un militaire qui dit ça, c'est quand même incroyable.
Non, c'est pas contradictoire.
Je le sais, hein. je provoque un peu.
Tu peux, j'adore. Tu peux, parce que finalement, le militaire, il la voit la guerre. Il sait ce que c'est. Elle est pas juste sur un écran de télé entre la poire et le fromage. Il y a pas de militaire qui aime ça. Ou alors s'il y en a qui aiment ça, faut faire un petit travail quoi globalement. Ouais. Alors si on peut aimer ça,
il y a de la violence au sein des militaires, tu peux pas.
Oui, bien sûr, mais évidemment, on est formé à ça.
Bien sûr,
on est formé à ça. Mais quand même une grande discipline qui fait que cette violence peut s'exercer envers l'ennemi qui est désigné. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour les militaires, prendre la vie, c'est pas facile. Et c'est plus facile parce que justement, on risque la sienne.
Ouais.
Et y a des témoignages qui disent que c'est plus difficile de prendre la vie du mec d'en face, de risquer sa vie que de prendre celle du mec d'en face. Mmh. C'est d'ailleurs tout le problème avec les armements pilotés à distance à l'heure actuelle, où tu pilotes, t'es sur un conflit, et puis tu termines, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu dînes en famille. Enfin, il y a un côté qui est complètement schizophrène et qui est complètement abrasif au niveau psychologique. Donc, il y a de la violence chez les militaires, mais alors il y a du contrôle des émotions, oui, ça c'est évident, ça c'est nécessaire. Si on voit que le chef a peur, je suis pas sûr que les hommes suivent. Mais c'est pas un métier violent intrinsèquement. Je veux dire pas plus que quelque part gérer les pompiers. Enfin de mon point de vue, moi je suis de l'armée de l'air, hein, donc l'armée de terre c'est quand même un organisme différent. Mais la mort est une hypothèse de travail, on va dire. Voilà, ça c'est Michel Goya qui en parlait, la mort comme hypothèse de travail. Mais du coup, dans cette violence, elle peut s'exprimer de plein de choses différentes. J'ai commencé à travailler au début de ma carrière sur l'ex-Yougoslavie, où là, t'avais une superbe guerre civile dans toute sa splendeur. Et justement, des gens qui n'étaient pas formés à la discipline militaire, à travailler en équipe, à fonctionner en équipe et avec une éthique et des valeurs, parce que derrière la discipline, c'est ça en fait, eh bien, ça devenait des horreurs absolues, où finalement, avant, les Bosniaques, les Croates, les Serbes vivaient bon, sous une poigne de fer du maréchal Tito, certes, mais ils vivaient en société. Et quand cette société s'est délitée, bah, c'était chacun contre tous. Et puis, bah, c'est là que tu vas assassiner, tu vas violer ceux qui étaient avant tes voisins, que tu croisais dans la rue, que tu pars sur des atrocités absolument innommables. Donc, il y a ça, oui. Et bah, statistiquement, oui, c'est quand même plus les hommes qui font ça.
Oui.
C'est clair, c'est très clair. Donc, bah, comment on peut faire? Enfin, comment moi je peux faire à mon modeste niveau pour essayer d'apporter ma pierre, mon gravier, mon caillou, mon grain de sable, peu importe, bah, pour créer un monde, pour faire évoluer la société vers quelque chose d'un peu plus juste, d'un peu plus équilibré dans le côté yin et le côté yang, et dans une masculinité qui pour moi est lumineuse, c'est-à-dire qui est pleinement assumée dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, tout en restant un homme. Enfin, je veux dire, c'est pas contradictoire. Oui. Pour moi, c'est complémentaire.
Comment tu vas faire alors avec tes deux petits gars là qui rentrent dans l'adolescence et qui vont être influencés par des tas et des tas de conneries, parce que on a globalement, quand on veut être on veut faire en sorte d'éduquer des hommes un peu conscients d'eux-mêmes et tout, la société contre nous, hein, clairement. Comment tu comptes faire alors?
Alors, bah, comment je fais? Non, j'ai pas un plan dessiné en disant il y a étape 1, étape 2, et puis ensuite on va passer à l'étape 3, mais qui est sur une autre ligne d'opération pour arriver à l'état final recherché. Bref. Parce que, comme disait Khalil Gibran, en fait, les enfants sont des arcs tirés, des flèches tirées par l'arc de leurs parents. Et alors, j'aime bien les citations, mais Montaigne disait aussi l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, c'est une flamme que l'on allume. Et donc, le but, c'est pas de remplir le vase. C'est d'allumer cette flamme et d'allumer cette flamme en confiance. Alors, comment je fais? Ben, c'est ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire répondre à toutes les questions qui sont posées, répondre. Et si j'ai pas la réponse, eh bien, je lui dis, bah, écoute, je vais chercher la réponse, il faut que j'y réfléchisse, et puis on en reparle demain. Et puis le lendemain, pas dire chouette, il a oublié, je n'en reparle pas. Je dis, au fait, à propos de ta question d'hier, voilà, et on en parle. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, ils m'ont déjà questionné sur la mort, est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un, voilà, ce genre de questions. J'ai répondu. Maintenant, je leur dis, voilà, par rapport à moi, mon émotion, il y a des domaines, voilà, cette partie de ma vie, j'ai pas envie d'en parler. Donc, il faut respecter ça. Mais à partir du moment où c'est dit, c'est OK, il n'y a pas de surprise. Comment je fais? C'est que vis-à-vis d'eux, dans l'éducation, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est-à-dire, en fait, c'est asseoir sa crédibilité. Et puis, ça fonctionne avec ce qu'on appelle les suasions. Tu sais, tu as deux suasions différentes. Tu as la persuasion, fais ça parce que. Et puis la dissuasion, fais ça sinon. Mais du coup, quand tu es crédible, parce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Si tu dis, je te préviens, tu recommences. Là, tu entends de jeux vidéo du week-end. Ah ben, ils savent que ça va être le cas. Donc là, on est pris au sérieux. Ça marche aussi. Alors, le paradoxe de ça, enfin, c'est pas un paradoxe, c'est logique, c'est que quand tu mets un cadre, ben, le cadre, c'est rassurant pour les enfants. Mais pour vérifier qu'il y a un cadre, faut s'y heurter. Donc là, faut gérer. Alors, j'ai regardé la communication non violente, c'est un outil extraordinaire. Et puis, il y a des fois, tu sais, t'as passé une grosse journée, une petite nuit, machin, t'es fatigué, et puis là, t'as la question de l'enfant, enfin, je veux dire, le comportement de l'enfant, ils sont super agités, tu sais, tu sens que t'as la pression du magma qui monte dans le volcan et tu sens que voilà, ça va péter. Bah là, il y a deux solutions, soit tu prends tes chaussures, tu vas faire un petit tour en forêt, hein, le temps que la pression descende, ou j'ai l'avantage aussi d'avoir une parfaite complémentarité avec ma compagne. On a les mêmes approches de l'éducation, on partage des belles valeurs, on partage la confiance des enfants, et de dire que l'un puisse dire à l'autre « là, je vais exploser, tu peux prendre le relais ?» Et ok, ça passe bien. Ça passe bien. D'ailleurs, entre nous deux, on pratique aussi la CNV parce qu'on a des choses à se dire. Et c'est ça. Et éviter le tu qui tue pour parler en jeu, effectivement. Ouais. C'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Donc, c'est œuvrer au quotidien, répondre aux questions, les ouvrir sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de voir les choses, et que d'autres visions, d'autres opinions, c'est OK. Après, c'est plus dire par rapport à ce qui a trait aux écrans, parce que ce sont des jeunes de leur génération. Donc, voilà, je leur ai expliqué, par exemple, TikTok, comment ça fonctionne, TikTok. Bah, TikTok en Chine, c'est pas le même qu'en Europe. Mmh. TikTok en Chine, quand on navigue au hasard, on tombe sur des vidéos de jeunes qui aident des vieilles dames à traverser, de scouts qui font des bonnes actions, etc. Que des actions valorisantes. Alors que l'algorithme qui est développé en Chine, dans les pays européens et aux États-Unis, est fait pour montrer de la connerie. Parce que ils ont déjà compris que la guerre de l'intelligence, c'est-à-dire à qui aura le plus de QI, en gros, dans 50 ans, eux, ils ont déjà commencé. Et du coup, ils limitent le temps d'écran via la reconnaissance faciale à 3 heures par semaine pour les jeunes.
Incroyable.
Ah oui, à Singapour, ils ont été très, très drastiques également sur les jeux vidéo, les écrans. Le QI moyen de Singapour a augmenté de plusieurs points ces 15 dernières années, tandis que celui, en moyenne en Europe, a baissé. Hein. Donc, si on suit les courbes, voilà. Donc, c'est un outil de guerre de l'intelligence, TikTok. Ouais. Et quand on explique ça aux enfants, quand on explique qu'une application gratuite, c'est que c'est eux le produit, quand on explique qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire, qu'ils n'échangeraient pas un inconnu dans la rue pour 5 ou 10 euros, et qu'en fait, ils le mettent gratuitement sur Facebook, quand on explique tout ça, avec des mots simples, ouais, en disant, vous avez peur des prédateurs, mais en fait, vous leur donnez tout,
bah oui,
déjà. Donc, ça, ils intègrent. Après, il y a quand même une fascination. Il y a des jeux vidéo qui sont très addictifs, qui sont assez délétères. Hein. Fortnite en est un, par exemple. Qui ont été conçus avec l'aide de neuropsychiatres passés du côté obscur. Enfin bref. Donc ça, il y a un temps d'écran qu'ils ont. Et puis, c'est aussi une variable d'ajustement qui est très sympa. OK, t'as fait des bonnes actions. On en rajoute un petit peu. Et puis, par contre, un gros mot, t'as tapé sur ton frère. Allez, crac. Une demi-heure en moins sur l'heure que t'avais. Voilà. C'est moche, mais ça marche. Ouais. Le souci que j'ai, essentiellement, c'est que on les a actuellement, c'est pas tranché, mais on les a une semaine sur deux. Et c'est le rocher de Sisyphe, c'est la baignoire que tu remplis où t'as pas fermé la bonde. C'est-à-dire que on leur donne des valeurs, des éducations, on les accompagne dans les devoirs, dans les explications, dans les sorties culturelles. Tu vois, par exemple, pendant le confinement, on leur a fait des Fantomas, des films avec Jean Marais, Le Bossu, des trucs comme ça. Enfin,
l'ancienne.
À l'ancienne, cartouche avec Belmondo. Mais c'est sympa aussi de leur expliquer et puis de leur remettre ça dans le contexte de l'époque. Bref, les livres. Et quand ils sont chez leur père, c'est abominable. Je vois que celui de 13 ans, par exemple, là, pendant le week-end de l'Ascension, il était chez son père. Il était sur YouTube jusqu'à 4 heures du matin, quoi. Et regarder des conneries. Mmh. Alors, à la limite, si c'est pourquoi les conférences d'Aurélien Barreau sur la naissance de l'univers. Oui.
C'était pas ça.
Non, c'était pas ça. On était, intellectuellement, on était quand même beaucoup plus pauvres. Mais voilà. Et ça, là, j'ai de la colère par rapport à ça parce que une semaine sur deux, ils sont gâchés. Les devoirs sont pas accompagnés. Il n'y a pas d'attention qui leur est portée. Et du coup, quand on les récupère le lundi soir, ils sont crevés. En général, le vocabulaire, faut remettre en place. On mange pas avec les doigts. On sort pas de table comme ça. Faut 24 à 48 heures pour remettre. Et c'est normal. C'est vachement dur pour eux d'être dans deux milieux complètement différents. Et c'est très simple. L'aîné a écrit sur une page à grands carreaux, Monsieur le juge, je souhaiterais vous dire ce que je pense de la situation. Et il était reçu par le juge pour dire que il voulait être chez nous.
Okay.
Et pourtant, chez nous, il n'y aura pas de YouTube jusqu'à 4 heures du matin. Quoi. Oui. Ça, c'est très clair. Mais il préfère. Donc, il y a la fascination pour ces outils-là. Et d'un côté, le cadre qui est rassurant. Et ça, je pense que c'est quelque chose à faire tous les jours. Et puis après, il y a ne pas hésiter à se montrer dans sa vulnérabilité. Je pense que en tant que père, et je me sens complètement père de ces enfants-là, ce sont les miens, point, voilà, ce sont les nôtres avec ma compagne, et avec tout l'amour que je leur donne et qui me rendent au centuple, c'est d'être présent et surtout d'accepter aussi de ne pas être parfait. Je pense que le pire qui puisse arriver à des enfants, c'est d'avoir des parents parfaits. Et de voilà, je me suis emporté, j'ai crié hier soir, je t'ai puni. Le lendemain, dire écoute, j'étais en colère. Voilà, j'ai passé une sale journée, j'étais fatigué, il était tard, vous étiez bien, bien agité, à ricaner, à faire des bêtises. Voilà, j'ai crié, j'aurais dû m'expliquer quel moment, donc je te prie de m'excuser. Et ben, je pense que c'est sain aussi de montrer que si je veux être un modèle masculin pour eux, je suis un modèle qui a aussi des vulnérabilités, c'est logique. Et c'est comme ça que la confiance se crée jour après jour. Alors après, c'est pas une méthode, c'est empirique, mais ça marche.
J'ai une dernière question pour toi.
Je t'en prie.
Que je pose à la fin de tous les épisodes d'Histoire de Daron. Alors ça marche moins bien pour ton garçon à toi, mais pour tes deux petits là, c'est cool. Imagine, ils écoutent ce podcast dans 10 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, aujourd'hui?
Ah, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Que ce sont des vrais amours. Que je les aime, qu'ils n'ont pas mon sang, mais ils ont mon cœur, et qu'à ce titre, ce sont mes fils, pleinement. J'assume ça pleinement. Et que je suis déjà fier de ce qu'ils sont, parce qu'ils ont eu d'excellentes bases grâce à leur maman avant que je les connaisse, et qu'ils croient vraiment en leur potentiel, parce que leur potentiel, il est infini. Ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent faire des belles choses. Et même quand ils auront 80 ans, ils pourront continuer à faire des belles choses. Et donc leur donner le conseil que disait Gandhi, de vivre chaque jour comme si c'était le seul, et d'apprendre chaque jour comme si on devait vivre éternellement.
Mic drop. On vous laisse là-dessus. Merci beaucoup Nicolas, c'était génial.
Merci Fabrice, j'ai adoré.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.